autre grand retour dont on attendait peut-être plus grand-chose depuis quelques temps, c'est les Jesus and Mary Chain, donc les Écossais, le groupe des Friar Reid, qui... alors moi, j'avais été un petit peu déçu hein, des derniers albums studio, puisque bon, ça faisait quelques années qu'ils n'avaient rien sorti d'intéressant d'un studio. Hein. En gros, ils se bornaient à ressasser grosso modo les mêmes recettes en produisant les mêmes résultats. Un manque d'inspiration flagrant. Alors, on avait de temps en temps, notamment l'année dernière, on a eu une bonne surprise avec un album live qui était plutôt intéressant. Et là, 2024, bonne surprise, donc, puisque il nous gratifie d'un nouvel album studio qui s'appelle Glasgow Eyes, qui affiche un rock toujours simple et direct. Alors, avec bien sûr beaucoup de guitares saturées. Et puis, le chant assez spécial de Jim Reid, donc... il faut l'écouter hein, pour comprendre. Et puis, au final, quand on écoute plusieurs fois cet album, c'est plutôt une réussite. Et je vous dirais même que si le groupe passait dans le coin proche de la Touraine ou sur un festival cet été, etc., cet album, Glasgow Eyes, me donne plutôt envie d'essayer d'aller les revoir sur scène. Voilà. Je vous laisse avec un morceau qui s'appelle Discothèque. Et donc, je rappelle que le groupe, c'est les Écossais de Jesus and Mary Chain. Allez, après le rock cathartique de Jesus and My Chain, on va changer un petit peu de style avec donc le cinquième album studio de Jay Massis. L'album s'appelle What Do We Do Now. Que dire de Jay Massis ? C'est le leader musicien du groupe Dinosaur Junior. Voilà. Et donc, de temps en temps, ben, il se fait des petites parenthèses solo, puisqu'il en est à son cinquième album solo. Donc, album qui contient 10 chansons, je dirais des perles un peu rock-folk. Donc, Jay Massis a le secret. Voilà, peut-être son meilleur album solo à cette heure. Alors, c'est pas au niveau peut-être de Dinosaur Junior, mais c'est quand même assez performant. Alors, tout d'abord, on retrouve la voix, comment dire, doucement émotive et lascive, une espèce de chant à mi-chemin entre le marmonnage et puis le croissement, mais ça colle plutôt bien au style de chanson de Jay Massis. Et puis surtout ben ces chansons sont ponctuées de solos de guitare dont il a le secret, avec un son à la fois cristallin et noisy. Je sais pas quoi vous dire de plus. Le mieux c'est de l'écouter. Donc Jay Massis avec Old Friends.
It's coming up again. I won't.
Donc après l'Américain de Jay Mathis, retour donc qui est passé un peu inaperçu, tout au moins à mes yeux, à la fin de l'année 2023. C'est le 13e album des Britanniques de Madness. Alors Madness, hein, bien sûr, ça reste les tubes célèbres comme One Step Beyond ou House, pour ne citer que. Donc cet album, 13e album, donc, a un titre qui mêle anglais et français, puisqu'il s'appelle Theater of the Absurd Present, c'est la vie. Voilà, je le fais avec l'accent anglais, enfin j'essaye. Et dès les premières chansons, le nom de Samuel Beckett, donc l'auteur de En attendant Godot, est cité. C'est-à-dire c'est une figure du mouvement du théâtre de l'absurde. Et ben, je trouve que l'absurde, c'est une étiquette qui colle plutôt bien au groupe Madness, donc groupe de fringants sexagénaires, dont je rappelle, le patronyme signifie folie dans la langue de Shakespeare. Voilà, ben, le résultat, c'est un disque... comment dire, théâtral et baroque, avec des riffs joyeusement ska, des mélodies douces amères, typiquement britanniques, et puis sans oublier les vocaux, la voix sensuelle de Suggs, le chanteur, et puis surtout des cuivres omniprésents, plus foldingues que jamais. Plutôt une réussite, et donc je vous propose d'écouter Madness avec Round We Go.
Praise him. God's gift, and no one wants to know him. She'll sing a lullaby and life will show him. The sun comes up and the sun goes down. The wheels come off and the deals go down. The news comes out and a star is found. We pray the game.
Allez, après Madness et leur nouvel album, un petit retour en arrière, un petit moment de nostalgie avec un de mes groupes préférés, malheureusement disparu. Je vais parler des Clash, qui est sans conteste pour moi un des groupes punk les plus importants de l'histoire du punk anglais. Groupe qui a œuvré de début 76 jusqu'à fin 86 à peu près. Malheureusement, donc pas d'espoir de reformation du groupe, puisque le chanteur Joe Strummer est mort en 2002. Ça fait déjà 22 ans, hein, quand même presque. Alors, que dire des Clash? C'est un groupe qui ne s'est pas cantonné au punk. Ouais. Ils ont essayé d'introduire dans leur musique punk initiale d'autres formes de musique, donc du reggae, du funk, de la soul, du jazz, voilà. Et seuls, à ce jour, je dirais, les Clash ont réussi à révolutionner le punk de la sorte. La preuve avec un morceau qui, pour moi... Et symbolique, voilà, de ce que pouvait réaliser le Clash, donc à la fin des années 70. Donc le morceau, c'est White Man in Hammersmith Palais par The Clash.
Are you?
Donc après les clashs, ben, de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps libre, je vais au cinéma. Là, je ne suis pas allé, mais j'ai vu que il y avait un biopic qui était sorti sur Bob Marley. On est dans le reggae, on va y rester un petit peu. Alors, il faut dire que les biopics semblent être à la mode en ce moment, parce qu'on a eu Freddie Mercury, Queen. Voilà, on a eu un biopic sur Elton John. Un petit peu avant, on avait un biopic sur, sur Whitney Houston, on a eu sur Elvis. En préparation, on attend un biopic sur Amy Winehouse, Michael Jackson, même Bob Dylan avec, je crois, Timothée Chalamet qui est pressenti pour le rôle. Et là, donc, c'était au tour de Bob Marley d'avoir enfin sa vie exceptionnelle portée sur grand écran. Alors, il semblerait que le film soit un petit peu décevant, à conseiller plutôt pour les vrais fans de Bob Marley. En plus, le scénario a pris quelques libertés, semble-t-il, avec la réalité, la vraie vie de Bob Marley. Écoutez, pourtant le film est produit par le propre fils du musicien, donc Ziggy Marley, ainsi que sa veuve. Je crois même qu'on trouve Brad Pitt à la production, me semble-t-il. Bon, enfin bref, allez voir le film si vous voulez, ou attendez qu'il passe sur une chaîne du câble, ça sera peut-être plus confortable et vous serez moins déçus. En tout cas, on nous reste les chansons de Bob Marley et je vous propose d'écouter Three Little Birds. Voilà, après une parenthèse cinématographique, on va revenir à la musique avec un quatuor féminin américain qui fête ses 20 ans d'existence. Et donc à l'occasion, le groupe donc, s'appelle Warpaint, qui retrouve son label qui les avait accepté à leur début. Voilà, les quatre filles donc, de Warpaint profitent de cette occasion pour sortir un nouveau single. Elles n'avaient rien sorti depuis 2 ans. Le nouveau single s'appelle Common Blue. C'est un morceau qui mêle un petit peu un groove terreux avec une mélodie mélodie palpitante qui évoque de manière assez réussie les arrangements subtils mais tendres qui caractérisent le style de Warpaint tout en subtilité et en, comment dire, prouesse musicale. Peut-être qu'un album, j'espère qu'un album est attendu et verra le jour en 2024. En attendant, on va se contenter de ce single qui s'appelle Common Blue et le groupe c'est Warpaint. Après les filles de Warpaint, on va enchaîner avec ce que je considère comme le meilleur album de 2024 pour le moment. Donc il s'agit de Yeshida, donc le dernier vinyle solo de Bill Ryder Jones. Je vous ai déjà passé quelques morceaux dans les émissions précédentes. Eh bien, on va continuer, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors Bill Ryder Jones, il cumule talent de mélodiste, d'arrangeur, de guitariste, ainsi qu'une personnalité fragile, hein, puisqu'il a été guitariste du groupe The Choral au début des années 2000. Il n'a pas supporté le succès et puis le rythme des tournées et le mode de vie du groupe. Et donc, depuis 2008, il a quitté le quintet rock, dont la gloire était devenue, je dirais, trop écrasante pour lui. Et il s'est lancé dans une discographie solo d'exception. Voilà, il ne lui manquait plus qu'un vraiment un véritable chef-d'œuvre pour le consacrer comme le musicien qu'il est. Et avec Yeshida, donc c'est son sixième album studio, l'ex-guitariste de The Choral, et montre qu'il est capable de produire un immense disque. Il place parmi les meilleurs compositeurs actuels de la pop britannique. Et on écoute donc Bill Ryder Jones, et le morceau c'est Christina.
Hands toward the sharper things. Now I'm all caught up and caught up in some scene. I thought I'd folded all my outsides in, keeping the corners from cutting your skin. But it went enough and not enough's nothing.
On reste dans les anglo-saxons avec des Écossais de Teenage Fan Club qui ont annoncé une tournée nord-américaine pour 2024. On les a vus d'ailleurs, ils sont passés au temps machine à jouer les tours à la fin de l'année dernière. Concert intimiste par rapport au public, mais plutôt très intéressant musicalement. Voilà. Donc ils ont sorti un album à la fin de l'année dernière qui s'appelle Nothing Lasts Forever. Album qui a été enregistré sur une période intense de 10 10 jours dans un studio en pleine campagne bucolique galloise. Et le, comment dire, le thème récurrent de cet album, donc Nothing Lasts Forever, est la lumière, à la fois comme métaphore de l'espoir et comme destination ultime. Et on retrouve en fait un son qui me fait penser à, comment dire, la fin d'une saison, les derniers jours chauds, vous savez, de l'été, alors que nuit commence à tomber et que les pensées deviennent un petit peu plus mornes, un peu plus mélancoliques en quelque sorte. Et donc, je vous propose un extrait de cet album, donc Teenage Fan Club, et le morceau c'est Foreign Land. Allez, on change de style après les Écossais de Teenage Fan Club. On va passer à un groupe qui était un pilier du mouvement Riot Girl, lancé à Olympia, alors pas l'Olympia de Paris, mais Olympia, la ville des États-Unis, qui ça date des années 80. Le groupe s'appelle Slater Kinney. Voilà, tout au long de leur carrière, ils ont, comment dire, vanté la lutte contre le patriarcat, le racisme et toute forme de violence. Et donc aujourd'hui, Slater Kinney fête ses 30 ans et en grande pompe, Alors bien sûr, ils n'ont pas choisi de best-of, mais mieux, un nouvel album, 11e album du groupe, qui s'appelle Little Europe. Album plutôt très réussi et signé par les deux guitaristes Corey Brunstein et Corinne Tucker, les deux seuls membres de la formation originale qui sont encore présentes dans le groupe, puisque la batteuse Janet Weiss a quitté le groupe en 2019. Ben, c'est plutôt une réussite, hein, ce 11e album de Sitter Kinney. Écoutez, Say It Like You Mean It par Sitter Kinney. Allez, il nous reste deux morceaux pour finir ce numéro 6. Alors, en avant-dernier morceau, j'ai choisi Placebo. Voilà, pourquoi ? Parce que j'ai surtout aimé Placebo dans leurs premiers albums. Je trouve qu'après, ils ont un petit peu de mal à se renouveler. Bien qu'en réécoutant leur dernier album sorti en 2022, qui s'appelle Never Let Me Go, il y avait quelques éléments intéressants. Mais surtout, Placebo, ils ont un petit savoir-faire secret qu'ils utilisent peu. Ils sont plutôt performants dans des reprises inhabituelles qu'on n'attend pas. Hein, ils nous avaient surpris en 2003 avec leur reprise de Kate Bush avec le morceau Running Up That Hill, qui était sur un CD ou sur un disque additionnel. additionnel dans une version limitée d'un de leurs albums. Et là, donc, sur le dernier album sorti l'année dernière, qui est un album live, hein, pas un album studio, on retrouve une reprise du fameux Shout de Tears for Fears, plutôt réussi. Et donc, je vous propose d'écouter Placebo qui reprend du Tears for Fears. Et le morceau, c'est Shout.
Shout. I'm talking to you, come on.
Et on va se quitter sur un... sur The Artist Rock, entre guillemets, même je ne sais pas si on peut le qualifier de rock. Donc David Bowie, et des mille visages qu'a pu avoir David Bowie, donc la multitude de personnages hein, qu'il a incarné tout au long de sa carrière sur scène. Il en est un qui pour moi est unique. Là, on est à peu près 50 ans après la création de ce personnage scénique, qui est peut-être le plus symbolique de la carrière de David Bowie. Alors je vais essayer de vous le décrire. Une coupe en brosse rouge. Un éclair rouge-bleu qui zèbre le visage et un torse dénudé plutôt blafard. Voilà, vous avez reconnu, je parle d'Aladdin Sane. Donc, faut savoir qu'Aladdin Sane, c'est à la fois un personnage, donc joué par David Bowie sur scène. C'est aussi un album. C'est une chanson sur cet album. Et puis, c'est une pochette remarquable, certainement l'une des plus célèbres de l'histoire du rock. Alors, je la mets au même niveau que celle du Pink Floyd de Dark Side of the Moon, vous savez, le triangle avec les effets de lumière, ou la banane du Velvet Underground, ou le passage piéton d'Abbey Road des Beatles. On peut rajouter au passage le bébé qui plonge après un dollar de Nirvana, la braguette en trois dimensions des Rolling Stones, etc., etc. Et tout le monde connaît la pochette, tout le monde connaît le personnage donc d'Aladdin Sane. Et par contre, la chanson, le morceau est un peu méconnu dans la discographie de David Bowie. Et donc c'est pour ça que je vous propose de conclure ce numéro 6 de Rock en Stock avec donc le morceau David Bowie et le morceau donc Aladdin Sane.
Radioactive.
Radio.
Radioactive.
Radioactive. Radio.
Radio.
Active.